Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Le repas pris en commun, repas de famille par exemple, est depuis toujours un rite de cohésion. Il s'agit d'une façon ou d'une autre de consolider le lien social. Le repas funéraire est à la fois du même ordre et d'une autre nature. Est-il lié au repas totémique? Est-ce un rappel des sacrifices funéraires animaux dont on mangeait les restes chez les anciens? Est-ce une manière de dénier la mort d'un proche? Ou n'est-il au contraire qu'une manière pour les vivants de se réjouir inconsciemment d'être encore en vie? En réalité, il s'agit de tout cela et de bien d'autres choses suivant les civilisations, comme le montre fort bien cette émission datant de 1995 et consacrée à la nourriture des morts et des endeuillés.
À Hepira, la terre des Guajiromors, la terre des Yuluhas, ceux qui viennent de mourir retrouvent leur bétail. Déjà sont arrivés pour eux les vaches, les chèvres, les moutons, mangés ou distribués lors de leur enterrement. Des Yoluhas ivres les tirent avec des cordes ou les poussent devant eux. Pour cela, on tue les animaux du mort lors de son enterrement. On distribue la viande à ceux qui sont venus pleurer. On la répartit dans l'ordre, selon la richesse. C'est le prix des larmes, ce sera la richesse du mort. À Hepira, les morts retrouvent leurs troupeaux, près des maisons où déjà se trouvent leurs mères, les frères de leurs mères, leurs sœurs, leurs frères.
La matinée des autres, la nourriture des morts et des endeuillés, une émission de Sophie Pillot, réalisée par Christine Berlamont. Le souci de nourrir le mort et de lui marquer l'attachement de la communauté par la communion dans la nourriture est une conduite traditionnelle que l'on retrouve dans la plupart des sociétés. Au Québec, le repas funéraire se dit « manger le mort ». En Haïti, manger mort. Et en allemand, on parle de consommer la dépouille ou de boire le cadavre. Des expressions qui en disent long sur la valeur symbolique liée à ce repas. Une manière de s'incorporer le mort et d'affirmer la victoire du groupe social. On ne choisit pas non plus n'importe quelle nourriture. Les céréales et plats régionaux ou nationaux sont à l'honneur. Une revanche de la vie sur la mort. Les morts sont nourris, eux aussi, du moins dans un premier temps, pour les aider à rejoindre leur nouveau monde. C'est ainsi que Van Gennep rappelle qu'en Bretagne, un morceau de pain béni était placé près du mort pour qu'il puisse s'alimenter au cours de son voyage vers le ciel. Il mange aussi, de manière métaphorique, les pissenlits par la racine, les choux par les trognons, ou plus simplement, des carottes, des radis ou encore des pommes de terre. Le cadavre, quant à lui, sert d'engrais à toutes ces plantes que les vivants dégusteront. Assimilé par la plante, il devient comme elle et renaît de ses cendres. Un cycle de vie bien connu qui veut que, comme les plantes, l'homme soit fauché, qu'il tombe comme une feuille morte ou qu'il s'abatte comme un arbre. Et ce n'est pas pour rien que dans le langage religieux, on parle de moisson des âmes ou d'âmes moissonnées. Car comme les végétaux, le mort ressuscitera. Voyage en Espagne, au Mexique chez les Indiens Nahua, en Inde, en Côte d'Ivoire, chez les anciens Scandinaves, au Maroc, entre la Colombie et le Venezuela chez les Indiens Guarreros, au Burkina Faso chez les Cassena, et tout de suite dans l'église orthodoxe roumaine de Paris, en compagnie des fidèles et du Père Valentin.
Ben, j'ai amené un gâteau qui est fait spécialement pour fêter cette, parastase, parce que chez nous, ça s'appelle comme ça. Après, de la viande, des fruits, de gâteaux avec du fromage et du vin rouge.
Le gâteau, il est fait avec des ingrédients particuliers?
Oui, celui-là, parce que c'est spécial pour les morts. Il est fait avec du blé, du sucre, et on met des bonbons et quelques ingrédients de citron râpé, de la vanille. Et on mélange tout ça, et de noix aussi. Ça, on le fait 3 fois par an, parce qu'on a 3 fêtes des morts, nous. C'est au mois de novembre, et puis c'est après le Pâques. Et au mois de juin, je pense. Je ne me rappelle plus très bien, mais ce sont les morts d'été, d'automne et de printemps.
On prend aussi les aliments sur la tombe. Des fois, est-ce qu'on se rend au cimetière?
Oui, on va au cimetière et on va distribuer là-bas avec un prêtre qui fait le rituel qu'on fait ici à l'église. Et après, on distribue la nourriture avec des fleurs, tout ça, si on va à la tombe.
Et on laisse une part pour le mort ou on mange tout?
Non, parce que toute la nourriture qu'on distribue, c'est pour les morts. Chaque fois que je donne quelque chose à quelqu'un, je dis à ma pensée le nom d'un mort. Vous comprenez?
Veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești.
Bine ești cuvântat, Doamne, lasă-ne pe noi îndreptările tale, chipul tale care cerești.
Nous faisons un gâteau qu'on appelle coliva. Coliva, c'est le gâteau qui est réalisé des grains de blé et du sucre. Et ce gâteau a un symbolisme particulier dans notre foi et dans notre croyance, parce que sous la forme d'un gâteau qui est fait de grains de blé, c'est le symbolisme d'abord du corps du mort, de celui qui nous est précédé. C'est son corps que nous voyons devant nous. Et deuxièmement, dans ce gâteau, nous exprimons notre foi dans l'immortalité et la résurrection du corps, donc la résurrection de mort, parce que cette croyance est fondée sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 24, le verset 20. Et c'est lui, le Seigneur, qui dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc c'est un des nombreux textes dans l'Écriture qui parle de cette foi, de cette croyance que nous avons, que nous exprimons à cette occasion, donc de cette foi dans l'immortalité et la résurrection des corps, dans la résurrection des morts.
Barrault, vous venez d'écrire un livre au PUF qui s'appelle « Mort à jouer, mort à déjouer ». On retrouve dans ce livre la fête, la mort, et on retrouve les repas funéraires. Et dans les repas funéraires, on peut dire que quelque part, les gens s'incorporent le mort.
Alors effectivement, je crois qu'on peut le formuler ainsi, car dans les sociétés finalement anciennes que l'on connaît, dont on a retrouvé des traces, on sait finalement que ce moment particulier de la fête avait une très grande fonction symbolique qui consistait justement à absorber, à ingérer, je dirais, les forces vitales de celui qui venait de mourir.
C'était quoi ? C'était cette première phase de refus que la personne ne meure ?
Alors, on peut probablement l'interpréter ainsi, parce que la mort est toujours un désordre, est toujours une rupture. Cela étant, au-delà du refus, je crois qu'il s'agit surtout de réintégrer ce défunt dans la grande chaîne des vivants. Donc, en absorbant certaines parties du corps, des morceaux de poumons, des morceaux de cœur, par exemple, c'était là encore une façon de continuer à faire vivre ce défunt et de ne pas rompre la chaîne des vivants, ce qui liait donc ici les vivants et les ancêtres, par exemple.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on s'incorpore encore le mort, mais de manière symbolique ?
Alors, je ne sais pas si on a toujours très très conscience, mais il y a probablement quelque chose du même ordre, à savoir que dans le repas funéraire, il y a assez souvent des mets particuliers qui sont préparés, qui ne sont pas des aliments que l'on retrouve habituellement dans la cuisine plus ordinaire. Donc il y a des aliments particuliers, et à cette occasion, c'est aussi le groupe qui affirme, je dirais, sa cohésion, qui fait face par rapport à l'événement. Il y a une sorte de communion et cannibalisme rituel, cannibalisme symbolique, oui, probablement.
Il y a là je pense à ce que tout le monde connaît au Mexique, où il y a les petites têtes de mort avec les prénoms gravés défunt qu'on veut honorer.
Alors en effet, il y a aussi les gâteaux ou les sucreries qui peuvent représenter des squelettes, des têtes de mort. Et tout ça est finalement très très joyeux, puisque c'est la fête qui s'affirme. Mais n'oublions jamais que la fête, c'est à la fois un temps ancien qui se termine et aussi un temps nouveau qui commence. Donc il y a une partie parfois triste ou difficile à surmonter, puis il y a aussi l'espérance d'un temps nouveau. Alors ces sucreries ou ces gâteaux que l'on absorbe, on peut y voir aussi, je dirais, la vie qui se venge en quelque sorte de la mort, qui la dépasse, et à partir de là, c'est la vie qui a gagné.
Il y a aussi la communauté des vivants, justement, qui se retrouve dans ce partage de nourriture, dans le symbole de vie.
Alors oui, et on peut parler donc à ce propos véritablement de revitalisation, de resocialisation. Donc le groupe se resserre, partage quelque chose en commun. Et d'ailleurs, je rappellerai, parce que l'expression, ou plutôt le vocable est très, très connu aujourd'hui, quand on parle de copain, à l'origine, ça signifiait partager ensemble pain.
Oui, le pain, le blé, les gâteaux, c'est toujours des mets qu'on retrouve.
Alors les céréales, effectivement, sont souvent très très fréquentes. D'ailleurs, bon, la symbolique est tout à fait ancienne, parce qu'effectivement, dans la grande civilisation égyptienne, assez souvent, on avait coutume, je dirais, sur la momie du défunt, de mettre quelques grains de blé. Donc il y avait véritablement là cette idée d'une renaissance, et je crois que cette conception de la mort-renaissance est une des clés pour comprendre nombre de pratiques rituelles dans les sociétés les plus anciennes. Contrairement évidemment à ce qui va se passer dans les sociétés modernes, où la mort est souvent considérée comme la fin, et souvent la fin de tout, donc la fin d'un monde.
En Aragon, là, dans un village proche de Saragosse, à Lesignena, les voisins apportent des tortas, c'est des brioches, et ces brioches ne se font que pour la fête, enfin les fêtes et cette occasion. On dit, on en fait à Noël, on en fait pour les fêtes du Saint Patron, et on en fait quand il y a un mort. On ne fait ces tortas que à ces moments-là, si bien que c'est très curieux parce qu'il y a presque une association de mort et fête. Et du reste, la veillée mortuaire, comme on boit beaucoup, on mange beaucoup, on parle des morts qu'on connaît, mais on rigole, on parle de choses amusantes. Et ça n'est pas du tout irrévérencieux vis-à-vis du mort, parce que c'est un petit peu une sorte de contact qu'on a encore avec lui. C'est comme s'il participait lui aussi à cette veillée.
Qui lui est présent, quoi.
Bah, il est présent, le corps est là, oui.
Le corps est là.
Oui. Mais ce n'est pas irrévérencieux, le fait de rire au moment de la veillée mortuaire.
Los ángeles en los cielos te alaben con alegría y nosotros en la tierra digamos Ave María.
La fête, on la trouve aussi lors de la Toussaint, qui fut placé à cette date de l'année par Grégoire IV en 875 pour tenter d'enrayer le culte rendu aux morts. Mais rien n'y fit. Le mois de novembre correspond à une des portes de l'année. C'est le passage d'une période d'abondance à une période de gestation. Comme le dit un dicton populaire, à la Toussaint, les blés doivent être semés et tous les fruits bien enserrés. Le 1er novembre, c'est aussi le nouvel an des traditions celtiques, où les sept premiers jours et nuits du mois étaient consacrés à des rites de renaissance du monde. Festins rituels et débauches étaient à l'ordre du jour. Une période où le monde des morts et celui des vivants se côtoient. En Espagne, Janine Fribourg, ethnologue, raconte.
Le rapport vraiment mort-nourriture, le plus important, c'est au moment de la Toussaint, au moment de la fête des morts. Bon, disons qu'on met ensemble la fête de todos los santos, la fête de tous les saints, et la fête des morts, parce que c'est 1er et 2 novembre. Alors là, vraiment, on peut dire que les morts participent de toutes les façons à tous les moments agréables de l'existence, c'est-à-dire qu'ils participent à toutes les fêtes. Avant de parler de la fête des morts, je voudrais dire deux mots simplement sur toutes les autres fêtes. Ils participent à la fête de Noël, ils participent à la fête du Saint Patron. Chaque fois qu'il y a une fête, on pense aux morts. Et c'est-à-dire qu'on fait des prières, on dit une messe pour eux. Mais ça va jusqu'au moment de Noël. On n'éteint pas le feu de la cheminée et on n'enlève pas tout ce qui reste du dîner sur la table pour que si les morts reviennent pendant la nuit, ils puissent se réchauffer et goûter au repas de Noël. Voilà. Ça, je crois que ça se fait encore dans certains villages, mais ça ne se fait pas ailleurs, quoi. Mais alors, donc, c'est surtout au moment de la Toussaint, parce que c'est le rapport mort-nourriture est vraiment le plus visible, le plus général en Espagne actuellement. Alors, comme pour compenser le caractère triste du jour de la fête des morts, on mange partout des châtaignes grillées ou bouillies, qu'on appelle différemment selon les régions. On les appelle, par exemple, castañadas en Catalogne et en Aragon, calbotadas en Extrémadure, magosto en Galice, ou dans la région de Santander également. Et surtout, on fait ou on achète des pâtisseries spéciales, justement, selon les régions. Alors, dans la province de Tolède, par exemple, on fait des pains qu'on appelle santos. Alors, il s'agit de la pâte à pain, dans lequel on a ajouté aussi de l'huile, du sucre et de l'anis. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont des formes humaines, et on les fait toujours bénir avant de les manger. Alors, je crois qu'autrefois, ça avait une valeur symbolique, mais actuellement, il paraît que ça n'en a pas. Alors, dans la région de... Alors, cette forme humaine est un peu curieuse, parce qu'on la retrouve dans la région de Majorque, où ces pains ont la forme de cadavres enveloppés dans leur linceul. Vous voyez ? Et on les appelle panets de mort, pains de mort. Alors, en Catalogne, on achète ce qu'on appelle les panayets. Ça, c'est particulier à la Catalogne. Ce sont des boules en pâte d'amande, enrobées de pignons. Et c'est censé représenter la châtaigne.
Et pourquoi la châtaigne ?
Mais je vous dis parce qu'on croyait qu'en mangeant des châtaignes, on libérait les âmes du purgatoire. Mais il y a aussi les huesos de santos, qui sont des os de saints, qui sont eux aussi faits en pâte d'amande, qui représentent un os, et dans lequel, à l'intérieur, on met une petite crème jaune pour symboliser la moelle. Ce sont des confiseries extrêmement délicieuses, très riches, les gens en sont très friands, et toutes les familles vont avec un plateau chez le pâtissier du coin acheter los huesos de santos.
Merezca por ti salir a tener a qué escuela de casa de inflador de la gloria de Jesús. Padre nuestro, estamos cielos ubicados y estamos navegando tu reino. Anca se tu voluntad sin de la tierra, como decía.
Les eaux des saints, une habitude bien proche de celle que l'on trouve dans les grandes villes mexicaines, où la tradition veut que l'on prépare des têtes de mort et des squelettes en sucre pour célébrer la fête des morts. Dans les petits villages des Indiens Nahua, c'est-à-dire ceux qui parlent la langue des anciennes Aztèques, la nourriture et la mort font aussi bon ménage. La fête des morts pourrait même s'appeler la fête de la nourriture. Et lors des décès, on n'oublie jamais la part du mort. Marie-Noëlle Chamou, ethnologue au CNRS.
On donne de la nourriture aux morts sous deux formes au moment du décès, c'est-à-dire quand on l'a mis dans le cercueil, on lui met à côté du cercueil, aux heures des repas habituels, la nourriture qu'il mangeait, la nourriture qu'il aimait à ce moment-là. Une autre nourriture est mise dans le cercueil, elle est assez particulière, ce sont des petites galettes de maïs en miniature. Il y en a 14, 7 en pâte de maïs normale et 7 en cendre. Alors l'explication, c'est que le mort va cheminer. À mi-chemin, il mangera la pâte de maïs comme des vivants. Et quand il sera arrivé, il mangera de la cendre, parce que la cendre, c'est la pâte qui constitue la nourriture des morts. Alors on met aussi, c'est intéressant, dans le cercueil, notamment pour les femmes et les fillettes, des petits objets de cuisine en miniature, pour qu'elles puissent continuer à cuisiner dans le monde des morts. Des petits pots, ça ressemble à des jolis petits jouets. Et on leur met aussi une assiette neuve, une assiette pour manger, ordinaire, mais neuve, pour qu'elle l'emporte, qu'elle puisse se nourrir pendant le chemin. Et on refait une veillée funèbre au bout de 9 jours, avec là une offrande de nourriture faite aux morts sur la table. Et on boit aussi, parce que depuis tout ça est toujours accompagné de boissons, dont d'une eau de vie de canne assez rude. Et on offre aussi donc son verre, si c'est un homme, on lui offre un verre d'alcool. Et les gens qui viennent prient, chantent. Souvent, on a embauché un spécialiste des prières chrétiennes. Et on offre à tous ceux qui sont invités ou qui viennent de la nourriture. Ensuite, on va au cimetière, là où le mort a été enterré, et on lui refait une offrande de nourriture sur la tombe. Et après ça, c'est terminé. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'au bout des 9 jours, il arrivait à Dieu, c'est une manière de dire, dans le monde des morts. Donc on peut supposer qu'il y est pendant toute l'année suivante, mais qu'il a peut-être encore tendance à revenir. Donc on lui refait son anniversaire de mort. Ça s'appelle le Cabo de Año, la fin de l'année. Et ensuite, par la suite, le mort sera honoré avec les autres morts à la Toussaint. On dit Toussaint.
On dit pas la fête des morts, on fait pas la différence entre la Toussaint et la fête des morts.
Non, on parle pratiquement pas des saints, on parle que de la fête des morts en réalité. On la commence le 1er novembre et elle dure le 1er, le 2 et quelquefois un peu le jour suivant même.
Vous avez des souvenirs personnels de cette fête qui est une fête de la nourriture aussi?
Oui, bien sûr. Alors pour les Nahuas, c'est la plus belle fête de l'année pour eux. La plus belle fête qu'on fait dans les familles, ça correspond à peu près à Noël pour nous. C'est-à-dire qu'on s'y prépare longtemps à l'avance. On considère que les morts se mettent en chemin un mois avant la Toussaint, depuis la Saint-François exactement, c'est-à-dire je crois que c'est le 4 octobre. Ils commencent à se mettre en chemin et on appelle tout ce temps qui précède la Toussaint le temps des morts. Mihka Tonali, comme on dit en aztèque. Et ils arrivent dans les maisons, le premier, arrivent d'abord les enfants. Les morts enfants, qui ont leurs petites assiettes. J'ai connu une femme qui avait eu 13 enfants morts en bas âge. Elle mettait ses 13 assiettes pour la Toussaint. Et eux ont droit à une nourriture différente de celle des adultes. La nourriture qui est exposée sur la table des morts, pour les enfants, c'est une nourriture qui est à base de bouillon, mais dans lequel on a dissous de la poudre de pépins de courge. En réalité, c'est que les enfants sont assimilés aux gourdes et aux courges qui font partie des rites aussi des dieux de l'eau, des dieux de la pluie. Et pour les adultes qui sont censés arriver le lendemain, les morts adultes, on met ce fameux plat de mollet qu'on a préparé longuement. C'est donc une sauce à base de piment, de toutes sortes de fruits à huile, genre sésame, amandes, noix. On rajoute des raisins secs et du chocolat, ce qui fait dire souvent en France que c'est de la sauce au piment et au chocolat. Mais c'est le plat rituel dans toute cette région et dans pratiquement tout le Mexique. Et cette sauce accompagne de la dinde. Et manger avec soit des pâtés de maïs, qu'on appelle tamales, soit des tortillas. Alors, on expose ça aussi sur la table des morts. Mais chaque visiteur qui vient a souvent droit à un peu du mollet préparé ou de la nourriture pour enfants, d'ailleurs. On en fait plus que pour les morts. Et il y en a chaque visiteur entrant dans une maison est souvent invité à, au fond, à dîner ou à déjeuner. C'est une fête qui est en même temps une fête de l'abondance. C'est le moment où les récoltes sont rentrées, où les arbres fruitiers ont donné à plein, où l'argent de la récolte investie dans les semailles de printemps est rentré. Enfin, c'est la fin du cycle agricole. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu la fête des morts.
Dans un autre lieu du Mexique, une vieille femme prépare des gâteaux pour la mémoire de son fils.
Après le jour où on a offert la nourriture aux petits morts, le jour suivant où on a offert la nourriture aux morts adultes, il y a le troisième jour où les jeunes filles vont offrir de la nourriture à leurs parrains et marraines. Alors, en général, on a énormément de parrains et marraines parce qu'il y a ceux de baptême, ceux de mariage, mais il y a aussi des quantités d'autres occasions où on choisit des parrains et des marraines. Il y a notamment les parrains et les marraines des morts. Et on va leur porter, en mettant les vêtements qui étaient sur la table des morts, les vêtements neufs, en s'habillant, en se coiffant bien, en étant très très jolie, propre et neuve, on va porter la nourriture, notamment ces fameuses viandes en sauce, à ses parrains et marraines, et on rend visite. Et il y a une circulation dans toute la région absolument étonnante ces jours-là, de jeunes filles et jeunes femmes, on pourrait dire endimanchées, qui portent leur panier avec leur nourriture. Et une d'elles me disait en riant, au fond, c'est un peu bête, parce que tout le monde s'échange la même nourriture. C'est la même nourriture qui circule, parce que les parrains et marraines, eux aussi, ils ont fait ça, donc ils l'envoient à leurs parrains et marraines, etc. Ça fait partie de ce circuit de dons qu'a si bien décrit l'ethnologie depuis Marcel Mauss.
Annick Barrault, sociologue.
Je pense que dans toute fête, il y a la double dimension. Il y a la dimension mort et vie. Et je crois qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et à tel point d'ailleurs que même encore aujourd'hui, dans les grands carnavals, alors je pense à Trinidad, je pense à Rio, les grandes fêtes qu'on évoquait aussi tout à l'heure, au Mexique, en Amérique latine, mais encore en Espagne, enfin un petit peu partout, il y a toujours une représentation de la mort. Sous forme d'un squelette, sous forme d'une vieille dame à cheval avec une faux, un petit peu terrifiante. Mais il y a toujours cette symbolique de la mort qui vient rappeler donc qu'un temps ancien se termine et qu'un temps nouveau va naître.
Et toujours un excès de nourriture.
Et toujours un excès de nourriture. Et il est d'ailleurs tout à fait frappant de remarquer que ce sont souvent les sociétés les plus pauvres, les plus démunies, qui finalement font les fêtes les plus importantes. Et qui, de ce point de vue-là, dépensent proportionnellement, on pourrait dire, à leur richesse, le plus. Alors qu'au contraire, dans des sociétés plus riches, plus développées comme les nôtres, la fête a un sens tout à fait affaibli. Et là, on rejoint ce que disait Georges Bataille avec la part maudite, hein, la nécessité, évidemment, de cette dépense, de cet excès, pour combler en réalité une perte. Et le sens ultime peut-être de ces pratiques, c'est de se dire qu'on est le plus fort. Parce que finalement, quand on peut dépenser, c'est qu'on a les moyens de dépenser. Et de manière illimitée, seul finalement, le Dieu, les dieux ou un pouvoir suprême n'a pas de limite. Donc c'est réaffirmer une toute-puissance.
Ah,
Chez les Indiens Guarderos, qui vivent entre le Venezuela et la Colombie, l'enterrement est une véritable fête, une des rares occasions qui permettent de manger à sa faim et de manger de la viande. Michel Perrin, ethnologue, auteur du Chemin des Indiens morts et des praticiens du rêve, a passé plusieurs années avec cette société de près de 100 000 personnes. Il les a regardés vivre, enterré les leurs et a appris leur mythologie.
C'est une société qui accorde une importance très particulière à toutes les relations avec les morts et donc qui pratique deux funérailles, deux types de funérailles qui sont les événements essentiels de la vie rituelle dans cette société. Et au niveau de ces deux funérailles, du premier comme au deuxième enterrement, il y a des attitudes très particulières face à la nourriture. Alors les premières choses se retrouvent dans beaucoup de sociétés, c'est-à-dire quand une personne meurt et qu'on va l'enterrer, on met près de son cadavre des aliments pour le voyage. Hein, comme disent les Indiens Guajiros, c'est la nourriture du voyage. Et puis, autre chose, on tue, en principe, on sacrifie tout le bétail du mort. Les Guajiros sont une société d'éleveurs. Et on vous dit qu'on tue le bétail du mort pour qu'il puisse se nourrir dans l'au-delà. C'est-à-dire que l'âme des bêtes que l'on tue se retrouvera dans le monde des morts que les Indiens appellent Hepira. C'est aussi une façon de dire que là-bas, on garde le statut social qu'on avait sur Terre. Si on est riche ici, qu'on a beaucoup de bétail, chez les morts, on sera riche et on aura beaucoup de bétail.
Dans ce monde des morts, il y a aussi une abondance de nourriture.
Oui, alors ce monde des morts est paradoxal. Non seulement on y apporte sa nourriture, mais aussi c'est un monde qui, du point de vue de la nourriture et de la sexualité, ce qui souvent va ensemble dans toutes ces, puisque nourriture et sexualité sont souvent la métaphore l'un de l'autre, c'est à l'envers du monde normal. Les Guajiros vivent dans un désert et la famine est toujours présente ou menace toujours. Là-bas, il est censé avoir des melons extraordinaires, il suffit d'en manger une tranche pour qu'on soit rassasié. Vous avez du gibier à satiété, parce que les maîtres des animaux sont proches de ce monde des morts. Et puis, vous avez droit aux relations sexuelles qui étaient interdites sur Terre. C'est particulièrement croustillant pour les femmes, puisque c'est une société polygame, tandis que là-bas, c'est l'inverse. Les femmes ne se donnent plus à leurs époux, mais elles se donnent à tous les hommes qu'elles ont désirés en rêve, en songe. Voilà. Donc, alors au niveau de la nourriture, lorsque se passe le second enterrement, qui est une chose très, très spectaculaire, on retire les os des morts 4, 5, 10 ans après la mort, on les met en ordre, comme on dit, on les nettoie, et on se réunit pendant, si le mort était important, pendant une semaine, 15 jours. Et là, quand on mange, à chaque fois qu'on prend des aliments, on en jette un petit peu par terre, parce que cette cérémonie est censée attirer ce que les Guajiros appellent les Yoluha, les spectres des morts, tous les habitants de cette île, qu'on appelle Hepira. Et donc, pour qu'ils ne se mettent pas en colère, pour qu'ils soient affables, pour qu'ils soient discrets, on les nourrit. Donc, ce sont des cérémonies qui, c'est invisible, mais c'est comme ça, réunissent les vivants et les morts. Les morts sont censés être présents tout autour de vous. Les secondes funérailles ont un rôle symbolique extrêmement important. On les fait lorsqu'il y a plusieurs personnes du même clan qui sont mortes. Parce que l'un des aspects les plus émouvants et les plus spectaculaires de la cérémonie, c'est au moment où, ayant mis en ordre chacun des squelettes, dans la phase finale de la cérémonie, on réunit les ossements ensemble, on les mêle. Ce qui signifie l'oubli, ce qui signifie la fin de l'individualité. On n'est plus une personne, mais on est matière du clan. Vous êtes, et là on est proche d'une conception presque alimentaire, vous êtes assimilé par le clan, vous êtes la matière même du clan. Bon, et là alors ça va beaucoup plus loin aussi, parce qu'il y a un autre aspect symbolique du rituel qui signifie une sorte de, pas de nourriture, mais au lieu qu'on nourrisse les morts, à ce moment-là, ce moment où, comme disent les Guajiros, les Yoluha, les spectres des morts, se perdent. Si vous écoutez les mythes, si vous écoutez aussi, si vous observez bien les rituels, vous apercevez que les morts deviennent, si l'on veut, quelquefois les Indiens se nommaient comme ça, la nourriture des dieux. C'est-à-dire, ils sont assimilés par les dieux. Alors, précisément, chez les Guajilo, il y a deux dieux principaux, si l'on veut. Il y en a un qui est la pluie, et il y a un autre qui est une femme souterraine, qui est la maîtresse du gibier, et qui a à sa disposition, qui est fixe, qui vit dans le sol, immobile, et qui a des émissaires qu'on appelle les Wanulu, qui sont ceux qui viennent tuer les gens, qui vous envoient les maladies mortelles. Et les Indiens disent que les Wanulu, ce sont des Guajilo morts depuis longtemps. Et ils disent aussi que les pluies, ce sont des Indiens morts depuis longtemps. La pluie permet aux hommes de survivre, mais pour qu'il y ait pluie, il faut qu'il y ait des morts assimilés par pluie qui retombent sur la terre. Et pour qu'il y ait des morts, c'est donc les Wanulu qui donnent les morts. Et les Wanulu, ce sont des Indiens morts depuis longtemps qui ont été assimilés par les dieux et qui reviennent sur la terre. Alors il y a encore un autre sens, une autre métaphore, si l'on veut, qui s'associe à celle de ce grand cycle vital qui assure la reproduction de la société et qui dit en fait que la mort n'est pas inutile, qui dit aussi que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est dans un monde que les physiciens connaissent bien. Il dit aussi, et c'est l'idée qu'il y a derrière les Wanulu, que l'homme est un prédateur, il chasse du gibier. Le gibier, dans ces sociétés-là, n'est pas naturel comme chez nous, mais il est la possession de ce que ces sociétés appellent des maîtres ou des maîtresses du gibier. Dans ce cas-là, c'est cette fameuse Pulowi. Et les Indiens, là, le disent, que les Wanulu qui flèchent les hommes le font, ils se comportent vis-à-vis d'eux comme les hommes se comportent vis-à-vis du gibier. C'est-à-dire que les hommes sont la nourriture des Wanulu, qui sont des Indiens morts depuis longtemps, tandis que les hommes, eux, mangent le gibier de Pulowi. Lorsqu'ils entendaient le tonnerre de Huya, de pluie, lorsqu'ils entendaient le tonnerre de Hiwa, une autre étoile, les Guajilo se mettaient à pleurer, car ils se souvenaient alors de leurs parents morts. Mais en même temps, ils disaient « La pluie apporte la nourriture et bientôt nous pourrons nous rassasier ».
Requiem eterna donale domine el perpetua los cherro que se impase ganga. Amén. Dale Señor el eterno descanso a los seres sobre ellos, el eterno luz cansa y pasa, así sea.
J'ai travaillé dans une société au Mexique qui, dans une extraordinaire théorie de la mort et de l'oubli aussi, suppose que les morts récents provoquent des maladies aux jeunes enfants, et pour que ces maladies guérissent, il faut extraire du mort des petites pierres. Parce que ces maladies sont provoquées par l'âme du mort qui est trop remuante. Et donc on la concrétise, si on veut, on l'a un peu comme une précipitation dans le sens chimique du terme, et ça donne des petits cristaux qu'on met dans du coton, qu'on garde chez soi dans la maison, et qui est l'âme du mort cristallisée. Mais pour que le mort ne revienne pas près de son âme, pour vous tracasser, il faut nourrir périodiquement ces petites pierres. Donc les Indiens, c'est une cérémonie très émouvante à l'occasion de réunions qu'ils font dans leur grande maison commune. Chacun vient avec sa petite calebasse où il y a enveloppé dans des tissus des petites pierres. On les sort et on les badigeonne de ce qu'ils appellent le terruino, un alcool de maïs. On les badigeonne de sang des taureaux sacrifiés et on les badigeonne d'autres aliments, de bouillie de maïs. Et ensuite, on les replie soigneusement. On a nourri ce qu'on appelle les ulucate, les petites pierres, les petits cristaux qui sont des morts. Et on recommence périodiquement. Jusqu'au moment, c'est aussi une cérémonie de l'oubli, quand on l'a fait 5 fois, 5 étant une espèce d'idée de totalité chez ces Indiens qui sont les Huichols du Mexique, on va les porter dans des grottes où ils sont mêlés, un peu comme les guajiros mêlent leurs ossements. On les mêle ensemble avec des cristaux qui viennent d'autres personnes, de la famille. Et à ce moment-là, c'est l'anonymat, c'est l'oubli. C'est comme pour les guajiros, lorsqu'on mélange les ossements et qui vont être assimilés par les dieux, c'est une cérémonie d'oubli. Et là, c'est pas par Pulowi et par Huya que sont assimilés les cristaux de roche chez les Huichol, mais c'est indirectement par le soleil.
En Inde aussi, les vivants veillent sur les morts. Charles Malamud, indianiste à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études.
Les funérailles dans l'Inde hindoue, comme dans beaucoup d'autres civilisations, consistent à transformer le nouveau défunt en ancêtre. En sanskrit, on dit un père. Le schéma type, c'est celui-ci. Un homme meurt, son fils procède à une série de rites qui ont pour effet de transformer ce nouveau mort en père, avec un P majuscule dans les transcriptions en langue européenne, et c'est-à-dire en ancêtre. Et le culte funéraire, une fois les funérailles proprement dites exécutées, et une fois acquise cette transformation du défunt en ancêtre, eh bien le culte funéraire consiste pour l'essentiel à nourrir périodiquement, régulièrement, les ancêtres. Non pas tous les ancêtres, mais un nombre limité, à savoir le père, le grand-père et l'arrière-grand-père. Dans certaines traditions de l'Inde brahmanique, ce nombre peut être un peu plus élevé. Quand on va plus loin dans le passé, c'est-à-dire qu'on remonte au-delà de la troisième génération, la génération de l'arrière-grand-père, alors on a affaire à des défunts qui sont eux aussi des pères, mais qui perdent leur individualité, qui sont considérés collectivement. C'est-à-dire qu'au lieu de les nourrir un à un, eh bien, on les nourrit en masse. Et le culte funéraire consiste non pas à faire des choses sur la tombe, puisque la tombe n'est pas là, mais à célébrer un culte sur un autel que l'on construit, enfin que l'on trace, tout exprès pour cette cérémonie. Il y a une orientation particulière, c'est le sud-est qui est considéré comme la région, enfin le point cardinal, propre aux morts. Ce culte funéraire, c'est principalement une offrande de nourriture qui a lieu une fois par mois, le jour de la pleine lune, et aussi en d'autres occasions. Mais ça, c'est vraiment la structure essentielle. Alors, le mode d'absorption de la nourriture n'est évidemment pas le même que pour les vivants, et l'idée est qu'on leur offre de la nourriture solide et liquide, enfin tout à fait semblable à ce que mangent les vivants, mais qu'ils absorbent la vapeur qui s'en dégage. Et on dit justement que les morts, ou plus exactement les ancêtres, sont des buveurs de vapeur. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette cérémonie d'offrande de nourriture, elle consiste à creuser trois fosses, trois petites fosses, trois trous qui sont préparés de manière spéciale. Enfin, on les recouvre d'une herbe sacrée. Enfin, et c'est-à-dire celui qui offre le sacrifice, c'est-à-dire le deuil, c'est-à-dire encore l'héritier immédiat, le fils, l'héritier immédiat du mort le plus récent. Alors celui-là fait son offrande, c'est-à-dire qu'il dispose trois bols dans lesquels il met de la nourriture malaxée, comme ça, un mélange de riz. Quelquefois, il y a de la viande, pas toujours, enfin, mais surtout du riz ou d'autres céréales, sous forme de boulettes. Et ces boulettes reviennent constamment dans les rapports que l'on a avec les ancêtres et jouent aussi un très grand rôle dans la cérémonie qui consiste précisément à transformer le mort en ancêtre. Il s'agit véritablement d'un repas, et en particulier, les vivants, quand ils mangent, avant de commencer le repas, plus exactement, ils doivent se purifier avec de l'eau. Eh bien, les défunts ou les ancêtres, c'est la même chose, c'est-à-dire que le sacrifiant asperge les fosses en question, ou les trous, c'est plutôt des trous, c'est pas des fosses très importantes, avec de l'eau, en prononçant des formules qui signifient en gros « purifiez-vous ». Préparez-vous donc à manger. Et après cela, le deuilleur lui-même, celui qui exécute la cérémonie, se purifie lui-même à son tour en s'aspergeant avec de l'eau, car il est bien dit, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les textes qui le font entendre, qu'avoir un contact avec les morts, même s'ils sont des ancêtres très, très révérés, c'est une souillure. Une fois qu'ils sont censés avoir absorbé leur nourriture, eh bien on leur dit « Accordez-nous la prospérité qui nous permettra de continuer à vous nourrir et surtout, et maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en, c'est fini. » Et aussitôt après, toutes sortes de rites de purification sont exécutés pour que le vivant retourne parmi les vivants et ne soit pas affecté par ce contact avec les morts qui est toujours inquiétant et qui met tout le monde mal à l'aise. Mais je dois dire que auparavant, avant que ces cérémonies destinées directement aux morts ne soient exécutées, l'usage, c'est plus qu'un usage, c'est une règle, est d'inviter des brahmanes vivants à faire un repas. Un véritable repas, donc, sur place. Et ces brahmanes, qui doivent être toujours en nombre impair, sont censés être les représentants de ces morts que l'on va nourrir. Alors, eux, ils sont bien vivants, et on les nourrit. On les nourrit, je dis bien qu'on les nourrit, c'est-à-dire, ça ne veut pas du tout dire qu'on partage un repas avec eux. Et j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a aucune espèce de communauté alimentaire entre les vivants et les morts. On ne partage pas le repas des morts. Mais d'une façon générale, il y a cette idée dans l'Inde brahmanique que quand on a affaire aux morts, eh bien, il faut faire des gestes qui soient d'une certaine manière très semblables à ceux que l'on a quand on s'adresse aux dieux ou bien quand on s'adresse aux autres vivants, mais en même temps qui sont de signes contraires. Par exemple, quand on s'occupe du culte divin, on utilise la main droite. Et on fait des gestes, et en particulier des cercles, qui consistent à aller dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ou dans le sens de la marche du soleil, si vous voulez. Eh bien, quand on a affaire aux morts, c'est exactement le contraire. On utilise la main gauche. Et si l'on a à faire un déplacement, on ne va pas de la gauche vers la droite, mais au contraire de la droite vers la gauche. Donc il y a toute une série de transformations, dont beaucoup sont des inversions, effectivement, lorsque l'on passe du monde des vivants au monde des morts, ou plutôt lorsque l'on s'adresse aux morts.
Quando gatia, quando niña, quando gatia,
c'est l'histoire d'un homme qui aimait tellement son épouse morte qu'un jour, lassée de le voir pleurer autant, elle vient, elle l'invite à aller au monde des morts. Et là, il y a nourriture, abondance de nourriture, mais le vivant sait devine que s'il mange la nourriture que lui offrent les morts, eh bien, il passera du côté des morts. Et de même que s'il fait l'amour avec son épouse, il passera du côté des morts et il mourra immédiatement. Et il y a d'autres mythes, Guajiro, de chasseurs aussi, qui sont entraînés dans le monde de Pulowin, la maîtresse du gibier, qui disent que lorsqu'il est invité par cette maîtresse à faire l'amour ou lorsque celle-ci lui offre de la nourriture, il ne faut absolument pas la prendre. La nourriture offerte par les morts tue les vivants.
Ici, nous sommes à Kaya, entre parenthèses Cassina, le 26 janvier 1994. Il est 12h24.
En Afrique, chez les Kassena du Burkina Faso, le rituel funéraire permet, comme en Inde, de transformer le mort en ancêtre et de bien séparer les morts des vivants. Des fonctions qui existent dans toutes les sociétés qui pratiquent le culte des ancêtres. C'est un processus souvent très long, rythmé par une série de cérémonies. La pratique des doubles funérailles est classique et peut s'effectuer de diverses manières. Chez les Kassena, les doubles funérailles sont pratiquées. Un simulacre du corps y sert de support. Danuta Liberski, ethnologue, a étudié cette population.
On constate que la mort d'un homme ou d'une femme vient perturber gravement le schéma sacrificiel. À la mort d'un homme ou d'une femme, toute activité sacrificielle s'arrête dans la maisonnée, mais aussi dans le lignage de la personne défunte. On constate une très grande perturbation de l'acte convivial du manger. Les feux de cuisine sont éteints. Les gens de la maisonnée, c'est-à-dire ceux qui avaient l'habitude de partager leur repas avec le défunt, soit en tant que frère, soit en tant qu'enfant, ne sont plus nourris que par des gens de l'extérieur. Des parents, certes, mais extérieurs à la maisonnée. Par ailleurs, il leur est totalement interdit de manger quelconque viande, que cette viande vienne du marché ou qu'elle soit les viandes qui proviennent des animaux qui vont être abattus pendant les 3 jours que durent les rites d'enterrement. Cet interdit se formule de la manière suivante. On dit que si ces gens-là, ces parents, ces proches du mort, mangeaient de la viande en ce moment-là, alors que le cadavre est couché dans une pièce de l'habitation, c'est comme s'ils mangeaient le mort.
Et dans cette première étape, il n'y a pas du tout un jeu justement sur l'incorporation du mort, de convivialité avec le mort. C'est-à-dire vraiment déjà on met les barrières et on sépare bien le monde des vivants du monde des morts.
Dans ce moment-là, il y aura bien des animaux qui vont être abattus pour le mort. Mais personne ne pourra manger ces viandes. Ces viandes sont totalement pour le mort. Les seules personnes qui peuvent les prendre en charge seront dès lors les fossoyeurs, c'est-à-dire ceux dont les Kassena disent qu'ils prennent en charge la pourriture. Ce sont les seuls qui se partageront ces viandes, et encore en prenant beaucoup de précautions. Dans la période qui court entre les rites d'enterrement et le début des secondes funérailles, on va faire un dépôt quotidien de nourriture dans une pièce spéciale de l'habitation. Et cette nourriture sera réservée aux morts. Il n'y aura pas de manipulation particulière de cette nourriture, il s'agit d'un plat ordinaire, de ce qu'ils consommaient quotidiennement, c'est-à-dire un plat de pâte de mil avec de la sauce. Mais on dit de cette nourriture que si on voulait la manger, elle est complètement vidée de toute sa substance. Elle ne nourrit pas. On aurait faim 5 minutes après, disent les Kassena. Parce que le mort a tout emporté. Le mort est encore toujours vif. C'est bien ça l'idée qui domine cette période. Le mort est encore toujours vif, il est toujours là, il hante les murs de la maison pendant toute cette période intermédiaire, mais aussi pendant au début des secondes funérailles. Et tout le rituel vise à ceci, c'est que ce mort qui hante les murs, ce défunt qui hante les murs, il faut le faire partir. Il faut le mettre sur la route qui l'emmènera au pays des ancêtres. Sa caractéristique, c'est, si vous voulez, c'est qu'il est toujours vif, un peu, bon, comme pour nous aussi, quand on vient de perdre un proche, le souvenir est encore très cuisant. C'est un peu cette idée-là qu'exprime cette représentation d'un mort errant dans les murs de la maison, errant dans le souvenir des survivants.
Quelques semaines, plusieurs mois, voire des années après le décès, interviennent les secondes funérailles. Elles-mêmes sont séparées en deux temps, une première cérémonie de 3 jours et une seconde de 4 jours. Entre ces deux cérémonies, les Cassénats laissent passer un laps de temps d'au moins 3 jours. Dans la première période, les rites d'enterrement sont rappelés. La deuxième période de 4 jours est centré sur la préparation de la bière de mil. Pour les Cassénats, 3 est le chiffre de l'amertume et 4 celui de la saveur. À la fin des secondes funérailles, le défunt est devenu une puissance ancestrale à qui l'on peut enfin offrir des nourritures sacrificielles.
Le premier jour des secondes funérailles va prendre place à un premier repas où, dit-on, on mange pour le mort. Les participants à ce repas, ce sont les parents lignagés du mort. Ce sont les aînés, en fait. Les enfants ne participent pas à ce repas-là. Mais dans ce temps-là, on est encore dans un temps où le mort est présent. On mange pour lui. On va aussi installer un simulacre du mort pour qu'il assiste aux opérations. On va lui ouvrir les oreilles pour qu'il entende ce qui va se produire sur la scène funéraire dans les jours qui viennent. Donc il va y avoir ce premier repas où l'on mange pour le mort. À la fin de la première cérémonie, les enfants, et les enfants uniquement, mais pas les propres enfants du mort. Par enfant, il faut entendre les enfants réels et classificatoires du mort, c'est-à-dire tous ceux qui, dans son lignage, pouvaient l'appeler père. Ces enfants vont devoir participer à un premier repas des orphelins, dans la chambre du mort, dans laquelle un rite de purification pour aller vite. C'est pas vraiment ça, mais on balaye les saletés du mort, que le mort y aurait laissées. Les saletés métaphoriques. Les orphelins vont manger, prendre part à un premier repas, où, dit-on, ils mangent la saleté de leur père. Donc ils sont là dans une position, ils ne sont plus là en position de risquer, s'ils mangent, de manger le mort. Mais ce qu'ils mangent, c'est quand même suffisamment proche du défunt que pour qu'on l'appelle saleté du mort. Par cette expression, il faut entendre, les Cassénats entendent ce qu'était le travail du mort, ce qui a fait sa sueur, son labeur. C'est-à-dire que le repas que vont prendre là les enfants a été fait à partir d'un mil qui a été tiré du grenier du défunt. Et c'est forcément, c'est le dernier mil que le défunt aura récolté par lui-même avant sa mort. Et c'est cela que doivent manger les orphelins.
On peut dire que là, il s'incorpore un peu la force vitale du mort ?
Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, c'est un repas qui vise à séparer. On n'est pas dans l'incorporation, bien qu'il y ait de l'absorption de nourriture. Mais vous savez que absorber de la nourriture, ce n'est pas toujours travailler dans le sens d'une incorporation. Ça peut être aussi travailler dans le sens d'une séparation. C'est-à-dire à défaire tous les liens qu'avait noué le défunt avec ses veuves, je parle bien sûr d'un homme mort, avec ses veuves, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec ses alliés. Tous ces liens seront traités, mais seront traités également les liens que le défunt a noués avec des objets, avec ses habits, avec son carquois, son arc, etc. Cela va leur permettre, dans les temps qui suivent, d'hériter ces affaires. Il y aura bien d'autres traitements qui seront nécessaires pour que les enfants puissent hériter des affaires du mort. Mais ce rituel fait partie de ce traitement. dans la seconde cérémonie qui clôt, si vous voulez, les funérailles, il va y avoir un second repas des orphelins. Et cette fois, ce repas, les uns le prendront dans la chambre du mort, les autres, les filles en l'occurrence, le prendront sur la tombe du mort. L'atmosphère est tout à fait différente. On est dans le rire, on est dans l'amusement. On dira aux orphelins que cette fois, ils ne mangent plus la saleté de leur père, mais ils mangent le dernier repas de la main de leur père. Cette fois, le mil qui a servi à préparer ce repas ne sort pas du tout du grenier du défunt, mais provient des collectes faites parmi tous les membres du lignage. Donc c'est un mil qui provient de tous les greniers des membres du lignage. L'important, c'est qu'entre les deux repas aura pris place d'autres rites qui sont venus transformer une première fois le statut du mort. C'est-à-dire que il va être représenté sur la scène non plus comme un simulacre substitut du défunt. Il apparaissait comme tel au début des secondes funérailles. Mais il va apparaître un statut de intermédiaire entre un défunt et une puissance ancestrale. Il n'est pas encore une puissance ancestrale, mais on a déjà fait une première libation sur le bois du mort, qui transforme ce bois du mort en un autel provisoire. Donc le second repas est aussi séparé du premier, donc d'une part par cette première transformation et par une seconde qui, elle, passe par l'alchimie de la préparation de la bière 2000. Si vous voulez, il y a toute une... un parallèle entre qu'on pourrait faire entre l'alchimie du souvenir et l'alchimie de la préparation de la bière qui demande 3 jours, qui demande une double cuisson, mais qui avant ça demande de faire germer le mil, de l'écraser. Et bon, il y a d'autres populations qui ont spéculé à ce propos, tels les Dogons, qui ont toute une théorie de la préparation de la bière du mil funéraire en fonction de la transformation du mort en ancêtre. Là, on ne va plus, après la préparation de la bière de mil, il n'y aura plus de cette présence qui hante les murs de la maison.
Samui samui komo cholo na zena boni kule kuzanga woga bate bauna ananti ju patru vrede bajenti ni kakwar buba bar pena ju pavanda bebe bayayo ya buyo yen ko boya no kuma dar tuna bambu popa mwanse tangwana bi webiana na webia chire di webi kunya so panchan lenli baya va kan se pore batona jige so jemana so dana na bina ya va kan se pore.
L'acte final, celui qui va permettre d'extraire de la maison en deuil ce reste qu'a laissé la mort, et reste que les Kassena appellent loi, cette extraction et cette sortie, les Kassena en parlent comme sous la forme d'une carbonisation. Il faut carboniser. Et c'est là un terme culinaire. C'est un terme qui ne s'emploie en dehors des funérailles que dans le contexte de la cuisine pour parler d'une cuisson excessive. Or, cet acte de carbonisation, il sera fait comment ? Il y aura d'une part un objet que l'on va appeler le carquois du défunt, qui sera brûlé, qui n'est pas le réel carquois du défunt, qui est un carquois miniature. Mais elle sera essentiellement faite, cette carbonisation, par la consommation de différentes nourritures funéraires. Des pois de terre, des haricots, des beignets de haricots, des galettes de mil, de la pâte de mil et de la bière de mil. Alors il y aura 2 sortes de bière, une bière fermentée, une bière non fermentée. Et c'est à la préparation de ces nourritures, de quantités incroyables de nourriture cette fois, que vont s'employer toutes les femmes de la maison, toutes les femmes aussi d'un segment déterminé du lignage du mort, qui est un segment qui, pour aller vite, forme une communauté de deuil. C'est eux qui sont le plus impliqués par la mort d'un de leurs membres, et c'est eux qui sont donc le plus engagés dans le travail du deuil. C'est eux qui ont à fournir le plus grand travail aussi pour se séparer du défunt. C'est eux qui contribueront le plus largement aux collectes de nourriture, des ingrédients pour préparer les nourritures, et c'est eux qui participeront le plus largement à la préparation de ces nourritures. Quand prend en place la première sortie des plats, on entend un aîné dire à l'entrée de la maison que le loua du mort, donc ce reste laissé par la mort, terme un peu énigmatique dont je n'ai pas de traduction en français, ce reste laissé par la mort, est dans la cour intérieure. Un autre aîné répondra « Faites sortir ». Et ce qui sort à ce moment-là, ce sont tous les plats de nourriture et les jarres de bière qui vont être disposés d'une façon bien particulière. Ils vont former une sorte de chemin de nourriture entre l'entrée de la maison et le tas des ordures ménagères que toute maison possède devant son entrée et qui est un lieu de maîtrise, si vous voulez, qui est un lieu qui est sous la main des ancêtres.
Et après cette dernière cérémonie, c'est donc la clôture du deuil et la transformation définitive du défunt en ancêtre.
Alors, oui, le lendemain prendra place une série d'actes faits par un personnage féminin qui a été très important pendant tout le déroulement des cérémonies. Série d'actes qui ont pour objet de traiter les restes. Traiter les restes qui ont été laissés par les opérations rituelles antérieures. Je m'explique. Par exemple, le carquois a été brûlé. Il reste des cendres. Ces cendres ont été prélevées, chacun une poignée, par les enfants du mort, réels et classificatoires. En ce lendemain, ils vont devoir se lever très tôt, partir en brousse, chacun de leur côté, sans personne ne les voit, pour disperser et enfuir ces cendres. D'autres restes existent sur la scène rituelle, les restes des nourritures de la veille. On ne pourra pas s'en débarrasser n'importe comment. Elles seront mangées par les membres de la maisonnée même du défunt. Il reste aussi les poteries dans lesquelles ont été présentées ces nourritures. Ces poteries vont être lavées, enfin, ce personnage féminin va les laver, et puis va demander aux filles du mort, aux filles qui habitaient dans la même maison que lui, de regarder pour une dernière fois leur père. Lorsqu'elle leur montre à voir, c'est un pot vide, justement, où il n'y a plus à voir qu'une absence.
Cette image des filles du mort qui regardent la poterie vide, c'est un symbole de cette fin de travail de deuil qu'elles ont eu à fournir pendant tous ces mois.
Disons que cette injonction que fait la femme aux filles de regarder leur père et qu'elles ne voient qu'une absence, eh bien, la marque que le travail du deuil est arrivé à son terme. Alors, ce qui est important à retenir de ce rituel funéraire Kasena, c'est justement sa façon qu'il a de focaliser, ou en tout cas d'utiliser, des repas comme procédé, entre autres procédés, comme procédé pour réaliser le travail de séparation entre les survivants et le mort, c'est-à-dire comme procédé de travail de deuil. C'est important, me semble-t-il, parce que on sait, par ailleurs, ce n'est pas ma spécialité, mais on sait que dans nos propres sociétés où il n'y a pas de rituel très élaboré à la mort d'un parent, il peut arriver que, pour une raison d'un deuil non terminé, cela se manifeste justement par des problèmes de nourriture, soit d'anorexie, soit de boulimie.
Las manchas de mis pecados me pesan en todo corazón y con todos los puntos y a ti
Petit retour chez les Indiens Guarelhos.
C'est intéressant de voir que les grandes occasions de nourriture, de bonne nourriture, chez les Guarelhos sont les enterrements. Et combien de fois j'ai entendu des jeunes, parce que je revenais quelquefois d'une longue absence, courir vers moi et me dire ce soir, chic, il y a un enterrement, on va pouvoir manger. Il y a une autre chose que j'ai observée quand je me suis intéressé aux rêves Guarelhos et la façon dont, par le biais du rêve, ou en évoquant des rêves, on pouvait justifier un certain nombre de désirs, certains rêves qui revenaient très souvent chez les adolescents qui, durant la saison sèche, pendant laquelle le bétail est extrêmement maigre et on ne le tue pas, on évite de le tuer, ils ont une fringale de viande extraordinaire. Et ces rêves sont toujours du même type. Un jour, un adolescent, quelquefois exprime même directement son désir de manger de la viande ou sa souffrance de ne pas en manger. Un ou deux jours après, il sort un petit matin en disant « j'ai fait un rêve très dur, un rêve effrayant cette nuit. Mon oncle est venu cette nuit dans mon rêve et il venait chercher son neveu ou ma sœur. Ensuite, il est parti et il n'a plus rien dit. Le jeune homme raconte le rêve à sa famille ou aux vieux de son groupe, de sa maisonnée qui connaissent les rêves. Et la maisonnée s'affole en disant pourquoi il s'affole ? Parce que l'oncle qui est venu en rêve est un oncle mort qui vit à Hepila, la terre des morts. Et quand un oncle mort ou une personne morte vient chercher un vivant, ça veut dire que le vivant n'a plus pour longtemps à vivre. Mais heureusement, la science des rêves permet une ruse ou une manière de résoudre le problème. Pour les Guarelhos, un jeune homme vu en rêve peut signifier dans la réalité un petit taureau, par exemple, un petit bœuf. Et au nom de cette science des rêves, de cette analogie des rêves, le vieux décrète que si on tue un petit taureau, eh bien, ça sera l'équivalent de donner le jeune homme au mort, et le mort devrait se contenter du petit taureau. Donc, on tue, on prévoit le lendemain ou deux jours après, pour contenter le mort, de tuer un petit taureau. Et évidemment, le jeune homme qui a fait le rêve a ainsi satisfait son désir. Et tout le monde est heureux parce qu'on va pouvoir, même si c'est pas la bonne époque, au nom du rêve et au nom du message contraignant du rêve et du rêve aux morts, c'est-à-dire au nom des morts, on va pouvoir se régaler pendant un ou deux jours.
Partout, les morts nous visitent en rêve. Changement de continent, Afrique, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Hortense raconte.
Au cours d'un rêve, le défunt peut demander à manger. C'est-à-dire, il peut dire oui ou je suis, j'ai faim, il faut me donner à manger. En ce moment, l'un de sa famille fait le repas préféré du monsieur et l'amène à côté de lui. S'il a été déjà enterré, elle va au cimetière, elle dépose le plat de riz, lui dit « voici ce que vous m'avez demandé ». Donc elle va spécialement pour lui donner à manger. Il y a des fois, tu arrives le lendemain, le repas est bien mangé, c'est-à-dire que le défunt a bien mangé.
Quand ce ne sont pas les morts qui mangent, ce sont les vivants qui mangent pour eux. Mais attention à ne pas oublier la part du mort. Voyage dans l'espace et le temps, avec Régis Boyer, auteur de La mort chez les anciens Scandinaves, aux éditions Belles Lettres.
Le banquet, comme tous les banquets, comporte deux choses. Il comporte des libations de boissons et il comporte de la consommation de nourriture. La consommation de nourriture est un cas un peu à part dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Je voudrais m'arrêter davantage sur la libation, c'est-à-dire la consommation d'une boisson forte. Alors là-dessus, nous sommes bien renseignés. On porte des toasts, ce sont les Scandinaves qui ont inventé les toasts que vous pratiquez quand vous recevez vos amis. On porte des toasts, obligatoirement, et le premier de ces toasts, ça s'appelle Drekka Minni, c'est beaucoup plus clair en vieux norrois, ça veut dire boire à la mémoire de. Premier des toasts est obligatoirement consacré à la mémoire des morts du clan ou de la famille. C'est-à-dire, on entend par le toast resserrer, réchauffer, sceller mieux la communauté entre monde des vivants et monde des morts. Alors, la nourriture, c'est autre chose. Lorsque l'on célèbre le banquet, on laisse obligatoirement un siège vide pour le mort que l'on est en train de célébrer et on le sert comme s'il était présent. Alors que la nourriture disparaisse ou qu'elle ne disparaisse pas, c'est tout à fait secondaire.
Ça, c'est une pratique que l'Église tentera d'interdire ou
non ? Elle n'y arrivera pas. Oui, bien sûr, ça va de soi, parce que il n'est pas exclu que la religion nordique ou germanique ancienne soit fondée sur le culte des grands ancêtres. Donc l'Église a, par définition, lutté contre ce type de rite, la main n'y est pas parvenue. Elle a substitué, elle a dévalué, elle fait tout ce que vous voudrez, mais elle n'a pas pu éliminer les morts.
Surtout que les morts peuvent prendre plusieurs formes après. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont rester des êtres physiques.
Alors, on va distinguer les bons morts, ou les vrais morts, ou les morts qui sont bien morts. Donc les morts normaux, disons. Des morts mal morts, pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'il peut se passer ceci. Vous mourrez, et vous mourrez dans de bonnes conditions, n'est-ce pas ? Bon, vous êtes une bonne morte, on vous célèbre comme on vient de le dire. Maintenant, vous mourrez, mais vous étiez en situation juridique incorrecte, on vous avait offensé, vous n'avez pas eu le temps de tirer vengeance de l'offense, ou bien vous êtes morte et votre patrimoine a été dilapidé par vos successeurs, ou bien vous êtes morte et il y a eu des mésalliances à l'intérieur de votre clan qui font qu'on ne vous célèbre plus en tant que morte comme on le devrait. Donc, vous revenez. Vous êtes un Draeger. C'est-à-dire, vous avez une réalité physique. Vous revenez sur Terre physiquement. Donc, vous êtes susceptible de manger, de boire, de dormir, de vous battre avec un vivant, de faire tout ce que fait un être vivant. C'est quelque chose d'un peu sinistre, mais c'est comme ça. Alors, à ce type de mort-là, il importe de préparer des repas propitiatoires, votifs, réparatoires. Enfin, il importe de manifester que l'on comprend bien qu'il n'est pas vraiment mort.
Oui, parce qu'en plus, quand il revient, il se permet de voler de la nourriture, entre autres.
Tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas, nos textes sont très riches là-dessus, parce que c'était un thème récurrent, il n'y a pas de chose qu'un Draeger, donc un revenant, ne soit pas susceptible de faire. La thérapeutique, c'est d'essayer de trouver pourquoi il est mal mort, pourquoi il n'est pas content. En général, dans l'écrasante majorité des cas, ce sont pour des raisons juridiques. Alors, on refait le procès dont il estimait qu'on l'avait frustré, ou bien on rejuge la cause qu'il pensait, lorsqu'il est mort, mal jugé, et ainsi de suite. En fait, on s'en tire par des manœuvres juridiques pour le convaincre que maintenant, il doit accepter son statut de mort. Alors, parmi les mesures propitiatoires, il peut y avoir des libations et surtout des repas. Il peut se voir offrir de la nourriture. Je ne crois pas qu'on mentionne nulle part que l'on sache... Je parle des textes en vieux norrois, je ne parle pas des contes populaires. Je ne crois pas qu'on mentionne nulle part qu'on a constaté que l'écuelle était vide, n'est-ce pas ? Mais enfin, on fait le geste pour manifester que l'on comprend qu'il appartient encore au monde des vivants, qu'il est mal mort... et qu'on compatit. Maintenant, une fois qu'on l'a retué, ou une fois qu'on a satisfait ce qui faisait qu'il n'était pas content de son sort dans l'autre monde, la question est réglée. Mais, par principe, je dirais, et ça va durer jusqu'au début de notre siècle en Scandinavie, on déposera sur l'appui des fenêtres, dans les fermes ou dans des endroits privilégiés, on déposera de la nourriture à l'intention des morts de passage éventuel qui, étant mal mort, éprouverait un besoin de manifester qu'ils tiennent à ce qu'on s'intéresse à eux, encore.
Retour à la vie moderne, au Maroc, dans un milieu urbain. Badia Ambari, ethnologue.
Le premier jour, après l'enterrement, où les femmes n'ont pas le droit d'assister, le cortège revient à la maison du défunt. Et là, ils trouvent une sorte de collation qu'on leur sert, qui est faite de radis, d'olives noires, de beurre, de miel et de café noir sans sucre. Le second jour, on reprend à peu près les mêmes ingrédients. Parfois, on rajoute des petits pains pratiquement pas sucrés, des amandes grillées. Et tous les repas sont fournis par le voisinage. C'est-à-dire que pour le déjeuner, le dîner, c'est les amis, les parents proches, les voisins qui viennent et apportent avec eux ou du couscous ou des tagines et pourvoient à toutes les dépenses alimentaires de l'enterrement. Et le troisième jour, qui est la clôture du deuil légal musulman, le troisième jour au matin, les femmes ont enfin le droit d'aller sur le tombeau du mort. Elles consomment une partie des offrandes qu'elles donneront aux pauvres et nécessiteux. Ces offrandes sont composées de figues sèches et de pain. Et après, elles rentrent à la maison. Et là, il y a un banquet qu'on appelle Ishat al-Qabr, c'est-à-dire le banquet du tombeau, où on fait un grand dîner, on dresse les tables, tout le monde, n'importe qui peut venir, les portes sont ouvertes, les portes de la maison, et on sert un couscous, toujours en premier, suivi d'un tagine de poulet. Et ce couscous et ce poulet sont toujours préparés à l'extérieur de la maison, parce que durant tous ces trois jours, le feu ne doit pas être entretenu à la maison. On doit éteindre tous les feux. Et ce repas clôture les trois jours légaux de deuil musulman. Au bout de ces trois jours, les femmes, les enfants du défunt ne doivent plus porter le deuil, doivent se laver, se coiffer et pour les femmes se maquiller.
Pour que le mort intègre réellement le monde des disparus, il faut complètement couper le pont. C'est-à-dire, il ne faut pas pleurer tous les jours parce qu'il est mort. Et il faut arrêter les deuils, c'est-à-dire essayer d'arrêter de porter les pagnes noires pour qu'il puisse intégrer le monde des morts. Sinon, il n'est pas accepté.
Les Yoruba, spectres des Indiens morts, se fondent dans un au-delà de la mort, sans nom et sans lieu. Plus tard, ils reviennent sur la terre, anonymes. Ce sont les pluies qui font vivre les hommes, ce sont les Wanulu qui les flèchent et qui les tuent. De même, les os des morts se joignent aux ossements des ancêtres sans nom. Ils seront la matière du clan, ils seront les ossements du lignage. Ainsi, la mort ne sera pas inutile.
La matinée des autres, la nourriture des morts et des endeuillés. Avec Michel Perrin, ethnologue, auteur de Le chemin des Indiens morts aux éditions Payot et les praticiens du rêve aux éditions PUF. Le père Valentin de l'Église orthodoxe roumaine de Paris, Annick Barrault, sociologue, auteur de « Mort à jouer, mort à déjouer » aux éditions PUF, Janine Fribourg, Marie-Noël Chamou, Badia Ambari, ethnologue, Charles Malamoud, indianiste, Danuta Liberski, africaniste, Régis Boyer, auteur de « La mort chez les anciens scandinaves » aux éditions Belles Lettres. Sont recueillis en France par Frédéric Sordoyer, à Ouagadougou par Roger Boyot du CNRST et au Mexique par Annick Lampérière. Mixage, Gérard Servet. Une émission de Sophie Pillot, réalisée par Christine Berlamont. Bibliographie disponible sur 3615 RF.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 janvier 1995 sur France Culture.